Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Oui, bonjour les amis, bienvenue à cette émission À nous le futur, ici Claude Saint-Jean. Nous sommes 4 minutes en retard, je vous expliquerai ça là, mais moi-même j'étais 7h15, c'est correct. Je vais commencer tout de suite en vous invitant à... D'abord, on va dire que c'est la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle, ben il y en a deux, tu sais, j'ai un invité là, qui s'en vient là. La première, c'est que, très égoïstement, là, je pouvais parler de moi comme bonne nouvelle. C'est-à-dire que je vous invite, avec un ami qui s'appelle Douglas Nader, à faire partie d'un groupe, un comité de responsabilisation citoyenne qui a en vue la prise en charge de la réalisation à Sherbrooke ou dans la région des cibles incluses dans la convention de la COP15. Alors, si ça vous intéresse, t'sais, de travailler aux cibles de la COP15, là, durant les 2 prochaines années. 819-791-4065. Mon nom est Claude et on en reparlera. Et puis, l'entrée est faite. On va déjà aller en pause musicale. Et puis, pendant ce temps-là, je vais regarder quelqu'un qui est supposé arriver. Merci. À tantôt.
CFAC 88.3.
En présent, comme si la route m'avait donné des ailes. En musique de fond, un refrain apaisant qui me rappelle que la vie est belle. Qui me rappelle que la vie est belle. Relativise tout. se perd au loin. On pense à tout et à rien. C'est fou comme une route relativise tous nos doutes. On oublie combien sa sagesse est sans fin.
Bonjour, vous êtes de retour à l'émission À nous le futur. Et la musique, c'était La route de plumes et d'encre. Et mon invité s'en vient, c'est Étienne Beaulieu. Je vais vous parler un peu de sa biographie, là, qui vient de Wikipédia. C'est un professeur actuellement en littérature au cégep de Drummondville. Il a été chargé de cours en cinéma québécois à l'Université McGill. Et il a été professeur de littérature à l'Université du Manitoba. Et c'est le cofondateur des cahiers littéraires Contre-jour et directeur des éditions Nota Bene, de même que directeur de la programmation des correspondances d'Eastman. Il a écrit 8 livres, à ma connaissance. Je vais lui demander s'il a des projets d'écriture. Et puis, il a eu 14 distinctions. Je vous en donne 3, là. Il a été finaliste au prix des libraires du Québec en 2023, catégorie essai pour les rêves de Hockpick. Et il a été finaliste prix Alphonse Desjardins 2017 pour Splendeur du bois au bois Beckett. Et puis il y a eu 2 prix à Sherbrooke, le Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke en 2022 pour Les rêves du Hockpick, dont on va parler. Et puis aussi en 2014, Trop de lumière pour Samuel Gasca. Alors il s'agit de Étienne Beaulieu. Et puis nous allons parler de 8 thèmes, la forêt, l'éthique du futur, le territoire, le capitalisme, la colère et les autochtones. Alors, nous retournons en musique et je vous reviens bientôt.
La mort comme instinct de survie. Je suis pompier et pyromane. Je fais courir des incendies et mes foulées soufflent leurs flammes. Je crée des vides pour que s'installe un printemps qui remplit de fleurs l'encre noire soufflée à la paille sur le sol blanc des extincteurs. J'ai mis le feu à mes forêts pour que tu renaisses de mes cendres. J'ai toujours su que tu pourrais être plus forte sans avoir mon ombre. J'ai mis le feu à mes forêts. Je ne te demande pas de comprendre. Sur le sentier, je disparais et laisse mon corps se distendre. J'ai mis le feu à mes forêts. 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 Car les sentiers qui me traversent ont la mémoire qui se dégrade. Des trous évasés par l'averse ravagent mes rêves qui rétrogradent. J'ai mis le feu à mes forêts. Mes ruines ne pourront pas tenir. Je me désagrège sans regret. Tu inventeras l'avenir. J'ai mis le feu à mes forêts. J'ai mis le feu à mes forêts. J'ai mis le feu à mes forêts. J'ai mis le feu à mes forêts.
que s'annihile l'inutile, que la lumière lèche mes entrailles, que le flétri devienne fertile, que bouille la sève de mes entailles, en temps grésille et les aiguilles. Le temps en péril se déforme, de la souche poussera la brindille. Oh, bien avant que je m'endorme, j'ai mis le feu à mes forêts. 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 Te laisse une terre meuble comme du sang, un grand tableau et une craie, la fin et le début de la fable. J'ai mis le feu à mes forêts. J'ai mis le feu à mes forêts. J'ai mis le feu à mes forêts.
Oui, bonjour. Re-bienvenue à l'émission « À nous le futur ». Tout à l'heure, j'avais enlevé mes écouteurs et en les remettant, j'ai éclaté de rire parce que j'entendais « J'ai mis le feu à mes forêts ». Je me disais « C'est Monsieur Éclair » parce que l'éclair, des fois, ça met le feu aux forêts. Mais non, il s'agissait de... Et j'ai perdu ma feuille. C'est... Je me souviens plus du nom de l'auteur. En tout cas, fait que... Ah oui, c'est ça, c'est Guillaume Arsenault qui nous chantait « Les feux du printemps ». Alors, j'invite avec plaisir M. Étienne Beaulieu qui nous arrive grâce au directeur de CEVAC. Merci beaucoup, Alexandre. Et merci, Dylan, qui nous met en musique, qui nous met en onde. Alors, on va entendre une petite pause musicale, puis on va s'installer pour bien parler.
Sur la feuille monte, on marche. Qui voit le ciel. On oublie un peu bête. Ma cyclone timide, ton trouble anxieux qui plane au-dessus de nos têtes.
J'expose mon avenir, mes douleurs et mes pertes. Dans le milieu des étagères, ma jeunesse, ma vingtaine. Et enfin, juste là derrière, quelques-unes de mes joies et mes peines. Derrière le grand comptoir, il y a mes forces et faiblesses. Il y a aussi plein.
Rebonjour, bienvenue à l'émission « À nous, le futur de tout le monde, là. Je ne sais pas les multinationales qui parlent. » Fait que M. Beaulieu, bienvenue, vous êtes ici, Étienne Beaulieu, écrivain, résident de Sherbrooke. Et puis, j'ai parlé de votre biographie en vous attendant, là, dans Wikipédia. Fait que vous êtes toujours professeur au cégep de Drummondville, je crois.
Oui, tout à fait.
Et puis, les correspondances des semaines, c'est bien l'écriture épistolaire, ce dont il s'agit.
Oui, bien, c'est pas seulement ça.
Okay,
c'était, à l'origine, c'était ça, mais là, ça a bougé beaucoup depuis. Là. C'est littérature générale. Là.
D'accord. Et vous avez 8 livres, je crois. Est-ce que vous avez des projets d'écriture?
Toujours.
Bon, c'est bien. Puis j'ai mentionné des distinctions, là, quelques-unes, la ville de Sherbrooke. Okay.
Ça m'arrive de temps en temps.
Bravo.
Merci.
Ben moi, j'ai un ami qui m'a parlé du livre, de votre livre, Les rêves du Hawk-Pic.
Ah, c'est le fun que ça fonctionne encore, ce réseau-là. En fait, c'est surtout ça que je me rends compte, là, parce que je suis éditeur aussi. Le réseau de bouche à oreille, là, c'est vraiment efficace.
Bon, il m'en a parlé, mais je l'avais vu aussi à la bibliérie. Fait que je l'ai acheté, puis je l'ai lu. Ah oui, c'est ça, j'avais commencé à le lire, puis je m'étais arrêté. Parce que j'avais vu que dans ce livre-là, vous parlez de l'autre livre, Splendeur au Bois-Becket. Fait qu'entre-temps, mais je suis allé voir le Bois-Becket. Puis c'est drôle parce que dans le bois, je demandais à des gens, connaissez-vous Étienne Beaulieu? Parce que vous dites que vous restez proche.
Ben oui, j'habite pas loin, mais je suis membre du regroupement de citoyens.
D'accord,
parce que
okay,
moi, je pense que c'est l'avenir de l'écologie, le regroupement de citoyens, c'est par là que ça passe.
Oui, bien, je suis d'accord avec vous. Justement, tu sais, j'avais apporté un livre de Abdenno Bidar. C'est un Français dont la mère était musulmane qui a écrit un livre sur réparer le tissu déchiré du monde. Puis il y a un livre sur les valeurs, puis une des valeurs, c'est la citoyenneté. Fait que je voulais juste dire ça.
C'est très beau comme titre.
Et, merci. Et puis, j'ai 8 thèmes, là. On va aller vite. Hein?
Allons-y.
La forêt, l'éthique du futur, et le territoire, la fragilité, le capitalisme, la colère et les Autochtones. Attends, on peut commencer par la colère. Tu sais, vous avez des mots sur la colère froide. Là. Vous avez rencontré un professeur qui...
Ouais.
Vous avez...
Ouais.
Bon.
Monsieur Edgar Pic, qui s'appelait à Lyon. J'ai eu la chance de faire ma maîtrise sur les mêmes bancs où Charles Baudelaire a écrit lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était en révolte contre son beau-père, le général Hawk-Pic. Mais c'était exactement les mêmes bancs d'école à Lyon 2, en France.
OK.
Puis Edgar Pic nous avait parlé d'un poète que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Le Comte de Lille, qui a écrit un poème extraordinaire qui s'appelle Dies Irae, qui en latin veut dire le jour de la colère. Ça m'a marqué, ce poème-là. Là. C'est, donc, il lit d'une colère telle qu'une colère cosmique là, qui va faire exploser le cosmos. C'est qu'il va, le poème se termine comme ça, aller féconder d'autres mondes.
Okay.
J'ai trouvé que c'était, mon Dieu, prophétique comme ton, comme vision des choses au 19e siècle. Là. Okay. Il y a presque 200 ans de ça déjà.
OK. Puis moi, ça m'a connecté avec Hélène Grimaud, qui est une pianiste. Et une,
ben oui. Ben oui.
Vous la connaissez?
Grande pianiste, oui.
Puis elle a écrit une couple de livres aussi. Puis sa citation, je l'ai citée la semaine passée. Puis j'avais les larmes aux yeux. Alors, contre cette destruction, contre sa menace, oui, depuis mon centre, le centre de protection du loup, là, retrousser les babines et montrer les crocs et me battre. Bon, elle disait ça. Puis aussi, ça m'a fait penser à le livre Les émotions de la Terre. Il y a des nouveaux mots, tu sais, comme terra furie, c'est la colère extrême là, à propos de la solastalgie. Bon, on ne parlera pas des autres plus que ça.
Mais ça va, ça fait quand même un environnement littéraire assez intéressant.
D'accord, merci. Puis, disons, concernant la forêt, là, je vais vite, j'avais un paquet de citations. Mais en gros, vous dites qu'on coupe trop la forêt, puis ça vient de la religion. Oculus, je crois. On veut voir, à cause de la chrétienté, là, le Dieu. Puis il faut couper les arbres pour ça.
Oui. Ça, c'est pas évident, ce lien-là, mais je dois être totalement honnête et transparent avec vous. Là. Cette idée-là là, d'un oculus divin, c'est pas de moi. Moi, je le reprends puis je le fais. C'est un chercheur que j'avais en compagnie de Serge Bouchard, où j'allais avec son émission, le défunt Serge Bouchard, qui était tellement important pour la forêt et le lien avec les communautés autochtones. On lisait ça ensemble. Robert Harrison, donc, qui a écrit un livre en anglais qui s'appelait Forest, en français, Essai sur l'imaginaire occidental de la forêt. Puis lui, ce qu'il avait noté comme lien, c'est que plus la religion chrétienne plus les forêts diminuaient. Et on se dit, mais c'est quoi le rapport? Est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une occurrence? Ça arrive-tu en même temps par hasard? Ou est-ce que Et lui, il arrive à la conclusion que c'est la cause. Et il explique une chose très, très simple, c'est que dans notre imaginaire occidental, toutes les religions de l'arbre ont été coupées. Les Celtes qui étaient sur le territoire européen, hein, c'est un arbre. Les Vikings, avec toutes les religions scandinaves, Yggdrasil, c'est l'arbre central. Donc, toutes les religions de l'arbre ont été éradiquées de l'Europe pour faire place à une religion où, justement, la forêt domestiquée, hein, le paradis terrestre. C'est un endroit où Adam et Ève vaquent à leurs occupations humaines, très humaines, de sexualité en particulier, pour peupler le monde que Dieu lui leur donne. Et c'est une forêt dépeuplée, c'est une forêt domestiquée. Puis bon, on pense que c'est dans le nord de l'Iran, à peu près, là, ce territoire-là qui a servi d'inspiration à la Bible. Et ça serait l'idée là, de départ du christianisme, c'est de rendre à plat toutes les forêts du monde pour que le lien avec le ciel soit de plus en plus direct et transparent, ce qui fait en sorte que la forêt devient un ennemi. D'où le fait que dans toute la littérature occidentale, dans l'imaginaire occidental, on trouve avec des phrases comme celle de Dante qui ouvre l'enfer, hein, « Je m'étais égaré dans une sombre forêt ». Et là, que faut-il faire pour le poète? C'est trouver la lumière, trouver une façon de se sortir de ce labyrinthe inextricable du mal qu'est la forêt. La forêt est connotée négativement dans tout l'imaginaire occidental à cause de la couleur verte. Le vert, nous dit Michel Pastoureau, grand historien des couleurs, est la couleur par excellence qui a porté des valeurs négatives. C'est pas seulement les Martiens qui sont verts, c'est pas seulement l'incroyable Hulk, c'est à peu près tous les dragons au Moyen-Âge. Le vert porte le mal. C'est tout récent, nous dit Michel Pastoureau, que le vert commence à être connoté positivement quelques décennies tout au plus avec la montée de l'écologie. Donc, c'est un peu ça l'idée. De point de vue occidental, on a un problème avec l'imaginaire de la forêt. C'est un peu ça que j'ai voulu essayer d'exprimer.
Merci, c'est bon. je viens de l'Abitibi, puis je comprends. Parce qu'en 100 ans, ça a été déviergé complètement. Là.
Complètement. Moi, l'Abitibi, je suis allé à Lassar quelques fois, il y a quand même un certain temps, mais j'ai beaucoup regardé les films autant de l'abbé Proulx que de Pierre Perrault, que de tout le projet de colonisation, qui est une catastrophe avec des terres rocheuses qui étaient complètement infertiles à la culture. Et on a détruit un territoire qui est en train de se reconstruire. J'ai vu, il y a quand même, la CEPAC a fait un parc national. L'Abitibi est en train de redevenir quelque chose de plus viable, malgré tout ce qu'on sait à cause de la fonderie Horn, et je ne suis pas certain que vous voulez qu'on aille là-dessus.
pas maintenant. Mais aussi, j'ai étudié en service social, puis il y a eu un problème, là, puis j'ai abandonné. Et je suis allé à Duchesnay, en foresterie. Tu sais.
Okay.
Puis ça aussi, j'ai abandonné. Parce que la sylviculture dont il parlait, c'était pour couper le bois. Ça fait que ça m'avait déçu. Et puis, c'est quelques décennies plus tard que j'ai eu les bons mots. C'était éco-agroforesterie.
Okay.
Ou agroécologie, qui m'intéressait. Okay. Mais à ce moment-là, c'était juste une intuition sans mots. Fait que, donc, sur la forêt, vous dites que nous ne savons pas habiter le territoire, finalement. Vous dites ça, là.
Et je pense que vous allez être d'accord, est-ce que je me trompe?
Oui. Non, mais ça...
Je le vois simplement dans les auditeurs et auditrices ne peuvent pas le voir, là, mais je le vois simplement dans votre rictus que, ouais, il y a quelque chose là-dessus. Je pense qu'on ne sait pas habiter la Terre, tout simplement. Mais... Tu sais, ça date pas d'hier, là, cette constatation-là. Plus j'avance, moi, je me suis dit, dans ma quête de... C'est quoi l'origine là, de ce problème-là qu'on a à... Bon, j'ai trouvé le christianisme, bien sûr, la révolution industrielle. Avec là, ça nous amène loin, ça nous amène à l'Antiquité. Mais je me suis rendu compte que déjà, dès l'Antiquité, c'était le cas. Déjà, même dans les premières civilisations suméro-acadiennes, on a un problème déjà avec l'épopée de Gilgamesh. On le voit, c'est l'histoire d'un homme qui cherche l'immortalité, qui pense la trouver dans une plante d'immortalité. Et il perd la plante d'immortalité. Seule chose qui lui reste à faire, c'est planter des palmiers dans la ville de Sumer et d'Akkad, là, de ce qui va devenir la civilisation suméro-acadienne. Et là, je me suis rendu compte que finalement, aussi loin qu'on remonte dans toutes les traces écrites et imaginaires qu'on a, l'homme a un problème, l'humanité, si vous préférez, a un problème avec les forêts, avec les arbres. Et mieux que ça, les paléoanthropologues les plus récents, comme par exemple Pascal Pic, nous apprennent qu'on est des machines à détruire notre environnement. Moi, là où je suis rendu, au moment où on se parle, ça fait déjà un an que le livre est sorti, ça fait quasiment un an, jour pour jour, là, et je continue là, à réfléchir à toutes ces choses-là, puis je rencontre toutes sortes de gens qui me parlent pour ça. Puis ma réflexion, elle est arrivée à un point où je me demande si c'est pas... Écoutez, là, c'est un peu gros ce que je vais dire, mais je pense qu'on est rendu à se poser la question, sommes-nous une espèce viable? Est-ce que c'est pas... Tu sais, c'est bien beau réformer le capitalisme, je pense qu'il faut le faire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, là, carrément, c'est ça ou crève. Là où on en est, c'est de comprendre que c'est pas seulement certaines populations qui sont problématiques, c'est toute la population humaine. Et c'est l'humanité qui est problématique. Ça, c'est un discours qu'on va entendre de plus en plus. Faites attention, c'est le discours des prochaines décennies. Aujourd'hui, ça a l'air radical. Vous allez voir, ça va devenir très mainstream comme discours. Sommes-nous une espèce nuisible à notre environnement? Oui. Et la réponse est oui. Nous avons éradiqué toutes les autres sortes d'homo, de la lignée homo qui était derrière nous. Mm-hmm. Il y a 40 000 ans, on a fait le ménage. Mm-hmm. On a fait la place comme le plus grand prédateur de l'histoire de la Terre. On est une espèce qui est dommageable, pas seulement pour nous-mêmes, pour tout ce qui touche au vivant. Mm-hmm. Et depuis, toujours. Mm-hmm. C'est...
Ouais, je trouve ça dur à entendre, mais la jeunesse qui est à l'écoute ici, je crois que...
Ils comprennent ça.
Ils sont habitués.
Je pense qu'ils l'entendent.
Oui. Ouais. En arrivant ici, j'ai eu une surprise. J'ai vu une exposition... Ça s'appelle Voix parallèle. C'est sur les Autochtones, par les Autochtones.
Merveilleux.
C'est dans le corridor ici.
Merveilleux.
C'est au moins 15 tableaux. Puis je sais que le dernier, d'abord, on parle d'un blanc en premier, je ne devrais pas, mais en tout cas, un hommage à Serge Bouchard.
Mais oui.
Et puis, si je regarde ma peau, des fois, un autre rictus, là, si je mets une page blanche, c'est pas vraiment blanc, tu sais, c'est brun là, un peu. Là.
Ben oui.
En tout cas.
Les variations de couleur de la peau humaine, là, c'est... Bien sûr.
OK. Fait que dans le livre « Les rêves de Hokpik », vous dites « Suis-je à mon tour en train de shipper la parole autochtone pour me l'accaparer? Je dois confesser que parvenu à ce point dans ma méditation sur le territoire, je voudrais n'avoir pas écrit ce livre et me contenter de faire connaître la pensée autochtone sans aucun autre intermédiaire qu'elle-même. » Alors, avez-vous des projets dans ce sens-là? Est-ce qu'une émission de radio dans ce sens-là, ça pourrait vous intéresser?
Oui, non, mais c'est certain. Moi, je fais toutes sortes de choses là, qui sont reliées à tout ça, à la suite des choses. Oui, oui, c'est un grand malaise d'avoir écrit ce livre-là. Mais c'est un malaise, je pense, que je ne suis pas tout seul à porter. Là. Oui. Le besoin de dire quelque chose, de se tourner vers la culture autochtone avec beaucoup d'humilité, puis d'essayer de, s'il vous plaît, apprenez-nous comment vivre, comment être en accord avec la Terre-Mère. Là. Comment fait-on pour retrouver un chemin qui a du sens? Et plus j'avance, plus je me rends compte, ce que je me dis souvent, c'est tais-toi, écoute. Écoute, là, il y a plein de gens qui ont des solutions, qui ont une manière de voir les choses. Je pense à mon ami André Lévesque-Sioui, qui est Wendat à Wendake. Je pense à Louis-Carl Picard-Sioui, qui est quelqu'un de très radical, mais que je pense que ses propos font vraiment du bien. Il y a toutes sortes de gens, comme Joséphine Bacon, que je côtoie à l'occasion dans les événements littéraires, qui est venue souvent en correspondance des semaines que je dirige. Des gens, donc, qui sont dans le milieu de la littérature puis qui sont en lien avec les cultures autochtones. Je pense que c'est les premiers qu'on doit écouter. Mais écoutez, il y a toutes sortes... Il y a une nouvelle génération aussi d'auteurs autochtones hein, qui arrivent. Là. C'est ça qui est fantastique. Moi, je me rappelle très bien de Florent Volant et de Cashtin dans les années 90. Je me souviens très bien là, que c'est la première voix en Innu que j'ai entendue de ma vie. Puis ça a été tellement un choc. Là. La douleur que portait la voix de Claude McKenzie, toute l'errance profonde, l'enracinement incroyable qu'on entendait juste dans... On entendait des millénaires d'habitation du territoire juste dans sa voix. Ça m'avait tellement marqué. Puis ça, c'est, je pense, c'est les premiers là, qui se sont intégrés vraiment comme il faut à la culture québécoise, puis qui ont réussi à faire porter le message des Premières Nations à travers une culture. Puis là, maintenant, ça résonne de partout. Ça résonne... J'ai l'impression que la suite de notre histoire est complètement entremêlée à la leur, ou je devrais dire... au leur, parce qu'il y a 11 histoires différentes, puis même à travers ces 11-là, il y en a plein d'autres. Donc, surtout pas les mettre dans le même panier. Il y a plein de destins communs, singuliers, qu'il nous faut complètement réapprendre, ou même apprendre tout court. Puis j'ai beaucoup d'amis, moi, autour de moi, qui se tournent vers les Premières Nations, qui s'en vont faire des tentes de sudation avec les Innus, qui s'en vont essayer de comprendre comment fonctionne le rapport au phoque chez les Inuits. Tout le monde se tourne vers là, c'est pas compliqué. C'est comme si, depuis tout ce temps-là, la clé était devant nous, puis qu'on l'avait pas vue, qu'on l'avait méprisée, qu'on s'en était même pas soucié, qu'on l'avait à peu près pas aperçu. Je pense qu'on en est tous là. C'est devenu... quiconque réfléchit là, et se pose des questions deux secondes sur c'est quel est notre destin, je pense que c'est cette question-là qui va surgir. Mon livre, Les rêves du Hokpik, c'est une espèce d'appel du berger à la bergère pour que ça réponde. Et voilà.
Oui, mais bravo quand même.
j'ai aucun mérite là-dedans. C'est pas ça mon but.
Néanmoins, vous êtes créateur prolifique et je vous remercie.
Ouais.
Et puis, dans la pointe du triangle, vous parlez de « à la croisée des grandes fourches », mais c'est bien ici, là.
Bien sûr.
Puis,
c'est ma vie.
Le mot, c'est K-T-I-N-E-K-E-T-O-L-E-K-W-A-T. J'ai cherché dans mon dictionnaire, j'ai suivi le cours du professeur Charlan, je ne l'ai pas trouvé.
Ah oui, hein, non, monsieur, je ne vous ferai pas l'insulte là, de le prononcer à la québécoise, ça va être épouvantable, le micro ne voudra pas recevoir le son, mais c'est le nom qui est utilisé en Abénaki, okay. Traditionnellement.
D'accord, ouais. Puis j'ai été surpris aussi du mot « képak », qui veut dire « débarque ».
Ouais.
Puis qui est peut-être la source du mot Québec, mais ouais. qu'on a mal compris. Là.
Ouais. Parce que tout le monde dit tout le temps, ah, Québec, ça vient de l'Algonquin, de l'Anishinaabe, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent, j'aime pas ça les appeler Algonquin, les Anishinaabe, okay. qui eux, dans leur langage, ils ont un mot qui est très proche du mot Québec, qui veut dire, tout le monde dit, ah, ça veut dire là où le fleuve se rétrécit, puis là, tout le monde dit, ah, c'est Montréal, tu sais, c'est là où le fleuve devient très étroit. En fait, il y a cette exception-là qui existe. C'est peut-être une hypothèse pour Québec. Mais il y en a deux autres qu'on oublie tout le temps. Il y a premièrement le Mi'kmaq, ou si vous préférez les Mi'kmaq, comme on disait jadis, qui aurait proposé, vu que c'est eux souvent les premiers qui ont été en contact avec les Français qui arrivaient au 17e siècle, là, même au 16e, hein, le mot, c'est tout simplement « Kespeg », qui a donné « Gaspé ». D'accord. Et qui veut dire le bout du monde. Okay. Et que les Français auraient pris pour Québec progressivement. Surtout qu'on sait que les Inuits avaient une pointe, là, la pointe de la ville de Québec, hein, s'appelait pour eux Québec. Parce que ça veut dire débarque, c'est là où on vient transiger, c'est là où on vient faire le commerce. Mais avant les Blancs, c'est super important de dire ça, avant les Blancs, ça c'est l'anthropologue qui nous a quittés récemment, qui s'appelle Sylvie Vincent, grand ami de Serge Bouchard, qui avait recueilli toute la culture orale des Inuits. Et qui racontait, c'est fou quand même de savoir ça, c'est extraordinaire, qui recueillait les récits inuits des anciens, qui de génération en génération se passaient le récit de l'arrivée des Blancs sur le territoire. Et c'est de là que ce mot-là vient, Képak, mais ça vient d'avant la rencontre avec les Blancs. Ils se rencontraient là pour faire le commerce. Donc, on pense les cultures iroquoiennes et les cultures dites algonquiennes. C'était le lieu de convergence pour faire le commerce à chaque année. Donc, c'est changer des objets, c'est changer des vivres, c'est changer toutes sortes de choses qui servent à la survie. Et les Blancs se sont insérés tout simplement dans ce commerce-là progressivement. Et c'est là que la ville de Québec a été fondée, comme on sait, par Champlain. Mais c'est pas pour rien que Champlain choisit ça là, parce que c'était le lieu de rencontre. C'était déjà la plaque tournante du commerce avant l'arrivée des Blancs. Donc, Képak, je trouve ça intéressant aussi de voir ça d'un point de vue culturel québécois. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire, descends donc de tes grands chevaux, là. Descends donc de ton grand vaisseau. Descends et viens parler, viens commercer, viens être pied à pied, d'homme à homme, hein, parler, qu'on fasse le commerce, qu'on échange, qu'on fasse des choses humaines ensemble. Et c'est là que je trouve, pour moi, c'est la signification que je trouve la plus porteuse. J'aime beaucoup Kespeg parce que c'est le bout du monde, mais Képak est extraordinaire comme signification.
D'accord. Et je pense que c'est dans Splendeur au Bois-Baquette, vous montrez une photo, une peinture, une photo d'une peinture du débarquement des Blancs. Et puis, je pense que ça montre les Blancs en lumière. Là. C'est comme on se prend encore pour des lumineux.
Oui. Ouais. En fait, c'est dans Les Rêves du Hook-Pick. Pas de problème. C'est vrai que ça fait mes livres finissent par se parler les uns et les autres, de se répondre. C'est normal. mais je garde le compte encore. cette peinture-là, elle est immense. Hein. Si vous allez au musée des Parcs des Champs de Bataille, là, à Québec, là, okay. Elle est gigantesque. Là. Elle ne rentrerait pas dans la pièce ici où on est. Là. C'est 6 par 8, là. 6 mètres par 8 mètres. C'est gigantesque. C'est une peinture qui est un échec total du peintre Marc-Aurèle de Foy-sous-Heurcôté, qui est pourtant un de nos grands peintres que, malheureusement, tellement de gens ignorent. Là. C'est l'impressionnisme au Canada, en gros. Et lui, il avait fait ce contrat-là pour Ottawa. Okay? Il voulait mettre ça au Parlement à Ottawa. Et évidemment que ça a été très mal reçu parce que les Autochtones qui sont là pour recevoir Cartier sont décrits comme émergeant de la forêt, rampant presque, hein, et recevant la lumière des Blancs qui arrivent, genre Cartier déguisant conquistador. Et surtout, moi, ce que je note dans cette peinture-là, c'est l'espèce de sombre colonne qui est derrière Jacques Cartier, les sombres humains qui sont derrière, tout peint en noir dans l'ombre, et c'est eux qui portent la quantité de virus, de bactéries qui vont dessumer presque instantanément, on le sait aujourd'hui, hein, les recherches de Roland Viau sur ce qu'on appelle les Iroquois du Saint-Laurent, on le sait, la réponse à la question pourquoi entre Jacques Cartier en 1534 et Champlain en 1608, pourquoi, en fait c'est 1603 la grande tabagie, pourquoi il n'y a plus personne quand Champlain revient dans la vallée du Saint-Laurent, la réponse est là. C'est les bactéries qui ont décimé les Iroquois du Saint-Laurent, déjà, premier génocide, tout de suite en arrivant, sans même le savoir.
Ouais.
Donc, cette sombre colonne dans la toile de Sous-Heurcôté, elle est lourde, elle est porteuse de comment je dirais ça, d'une catastrophe évidente, là, aujourd'hui.
D'accord. Nous avons un laisser-aller écologique dans les rêves occupiques, et puis les forêts serviront du lieu de préservation du futur de l'humanité. Ça, c'est dans le Splendeur du Bois, au Bois Baquette. Et puis, là, vous dites que vous habitez à Sherbrooke, près du Bois Baquette. Attendez un petit peu, là. Je suis profondément amoureux de cette forêt publique. J'y ai consacré un livre, « Splendeur et moi » au Bois Paquette, qui m'a porté à le lire, comme une déclaration d'amour aux forces végétales, aux fugitives puissances animales, à la force du vent dans les branches, au feulement des sapins en hiver. Et un peu plus loin, vous dites que c'est un miracle que la civilisation ait arrêté au Bois Paquette. Et vous donnez ça comme un exemple là, pour le reste du monde.
Et je le pense sincèrement.
Okay, d'accord.
La ville de Sherbrooke, là, la planification était claire. On avait ça dans le cadastre. Hein. C'était ça. Là, ils appelaient ça... comment ils appellent ça à la ville? Là? C'est quoi le mot? Là? Un vocabulaire vraiment hyper froid, là, technologique. Là. Ça s'appelle le plan d'aménagement de je sais pas quoi, là, du cadastre, je sais pas quoi. Là.
Ouais.
Et ils avaient vraiment prévu que le boulevard Jacques-Cartier allait se rendre jusqu'à l'autoroute.
Okay.
C'était clair. Là. Puis c'est rectiligne. Là, dans une bonne vieille tradition nord-américaine, là, des grands boulevards. T'sais, on va percer la forêt, puis flamme, on va se rendre là, puis ça va être des lotissements qui vont être là partout. Jusqu'à ce qu'il y ait des citoyens extraordinaires, dont un qui est encore dans le regroupement du Bois Paquette, qui était là en 1963, qui s'appelle Claude 5 Mars, qui est très proche de l'administration publique de la ville de Sherbrooke pendant plein d'années, sous plein de règnes. Donc, des gens là, fantastiques qui se sont dressés, des biologistes, des animateurs culturels, des administrateurs, toutes sortes de gens là, qui ont dit non, 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 non. Non, le Bois Paquette est une forêt ancestrale. Ils ont fait venir le ministère pour prouver que c'est une forêt qui a plus que 400 ans. Ils ont réussi à prouver la chose qui est extraordinaire avec les pruches, notamment, la forêt ancienne. C'est un milieu de vie écologique complètement fou. On a fait faire une caractérisation, là, des caractérisations pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi. C'est tout simplement la liste là, des espèces, des salamandres pourpres du Nord, hein, des toutes sortes de... Il y a une chouette rayée, il y a une famille de chouettes rayées. Il n'y a pas juste des chevreuils, comme on en voit beaucoup. Là. C'est extraordinaire, la diversité culturelle du Bois Paquette, c'est fou. Puis ça, c'est caractéristique des forêts anciennes. Parce qu'il y a énormément d'espèces qui sont interconnectées, qui réussissent à se maintenir en vie ensemble. Et là, moi, je pense aussi que, là, je vous donne en primeur, mais moi, je suis convaincu de ça. C'est juste une question de temps. Il y a une deuxième zone du Bois Paquette qui est une forêt ancienne aussi, j'en suis convaincu, dans la partie nord. C'est pareil, c'est exactement le même milieu avec des pruches là, qui ont environ un mètre et demi de diamètre. De large. Et donc, c'est clair que ça fait partie du même lotissement que le bout de la forêt ancienne du Bois Paquette. Ça, pour moi, j'ai dit, c'est l'avenir. Je le pense sincèrement. Les grandes compagnies et même les gouvernements ne sont pas à même, n'ont pas les outils pour sauver les forêts.
Mm-hmm.
On ne peut pas se fier sur eux. La preuve est faite.
Mm-hmm.
C'est maintenant là, urgent d'arrêter, d'essayer de passer par là. Ça ne marche pas.
Mm-hmm.
C'est pas ça la solution. La solution, ce sont les citoyens qui défendent chacun leur bout de terrain.
Mm-hmm.
C'est par là que ça passe. Autant en France contre un aéroport qui veut se créer dans les Landes, je ne sais pas moi, en région parisienne, les derniers boisés qui restent, c'est des citoyens qui habitent à côté qui vont se battre bec et ongle, qui vont même lâcher leur job, qui vont juste pour sauver leur bout de terrain, sauver leur bout d'arbre. C'est ça l'avenir. On en est là. C'est pour ça que j'ai bien aimé votre citation tout à l'heure là, de Hélène Grimaud.
Okay,
se battre contre ce qui reste, hein, parce que l'Europe aujourd'hui, même la forêt noire, la célèbre forêt noire, là, tellement puissante là, que je me rappelle, mais le philosophe Martin Heidegger célébrait comme le lieu de résistance de ce qui reste d'authentique. Ben, même elle est aujourd'hui complètement décimée, il ne reste presque plus rien. En Europe, il en reste une, elle est en Pologne. Et elle est menacée par un projet de lotissement. Évidemment, c'est toujours la même chose, là, de gens qui veulent faire une espèce de complexe supposé, qui s'appellerait, c'est toujours ça, qui s'appellerait la forêt ancienne, je ne sais plus quoi. Vous pouvez être sûr d'une chose, quand un entrepreneur donne un nom à un lotissement, c'est pour faire disparaître la chose qu'elle nomme.
Mm-hmm.
Voilà.
Okay.
C'est quand ça s'appelle la forêt machin, la forêt va être rasée, mais elle va fleurir dans l'appellation et dans le nom que le complexe va se donner. C'est toujours la même histoire.
D'accord.
Voilà.
Disons, je pense à l'instant au livre Le super pouvoir de la marche, écrit par un neuroscientifique.
Ah, c'est merveilleux.
Vous connaissez?
Non, moi, je n'ai pas lu, okay, mais okay. On a deux, Anne Genet, qui fait de la marche, m'a parlé de ce livre-là. Okay. Je devais le lire, ça fait longtemps, il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai toujours pas lu.
Ben, il m'a impressionné pour deux raisons. Il suggère que les villes emploient des neuroscientifiques et des psychologues pour l'aménagement du territoire.
Ça serait merveilleux.
Puis l'autre affaire, c'est il parle de la marche créative, disons marcher 40 minutes, puis avec une question dans la tête, puis les idées viennent. T'sais.
Et mon Dieu, juste une?
Je l'ai essayé avec une des 23 cibles, puis j'ai eu comme 50 idées.
Ouais, OK, bah, je vais essayer ça.
Il faut les noter.
Moi, c'est drôle, la marche, ça me fait exactement l'effet inverse. c'est d'essayer de me débarrasser de mes idées.
Ah, OK, OK.
Oui, d'essayer de faire le ménage.
Oui, OK, bon, en tout cas. Fait que vous parlez de l'éthique du futur dans Splendeur au bois Beckett.
Oui.
Et bien, moi, des fois, je parle de la littératie du futur, là. C'est l'OMS, en tout cas. Et puis aussi, vous dites qu'il faut changer nos modes de vie.
Oui.
Ben, vous en avez déjà parlé un peu, mais est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur changer
nos modes de vie? Cette question-là est lancinante. Qu'est-ce qu'on peut faire rendu où on est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois avouer là, que ça, je suis pantois devant cette question-là que mes filles me posent tout le temps. Là. OK, papa, c'est bien beau là, de critiquer. C'est quoi la voie à suivre? Comment réinventer notre vie? Moi, je lègue cette question-là, je pense, à mes filles, aux générations futures, mais ça serait lâche d'en rester là. Je pense que ce qu'il faut faire pour l'instant, là, au moment où on se parle en 2023, se battre. Battre pour chaque parcelle de territoire.
Mm-hmm.
C'est dans les administrations publiques, dans les assemblées citoyennes. C'est là qu'on peut aller. Mais évidemment que ça ne suffira pas à renverser le cours des choses. Là. Évidemment. Comment faire pour que ça... Moi, je pense qu'une des clés, c'est la démographie. Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. J'ai l'impression que la clé réside là. C'est-à-dire que les jeunes générations, quand elles vont devenir majoritaires, c'est-à-dire d'ici environ 10 ans, paraît-il, peut-être que les choses vont bouger. Moi, je fais partie de la génération X. Je suis battu toute ma vie pour être du côté de ceux qui voudraient faire bouger les choses et ça bouge pas bien, bien. À part de manière locale, mon espoir est le suivant, si c'est ce que le danger que je peux dire, c'est que c'est l'association de tous ceux qui veulent faire quelque chose qui est la clé de la solution, je pense.
D'accord. Moi, je pense qu'au point de départ, je me suis trompé parce que je suis né à Malartic sur une mine d'or.
Et wow.
J'attends encore mon chèque. Et puis...
c'est ça.
Là, malheureusement, il y a une nouvelle mine d'or à Val-d'Or qui s'en vient, là.
Ouais.
Puis Alexandre Scheel a un article là-dessus le 6 janvier 2023.
Ouais.
Fait que, tu sais, 600 000 tonnes de GES et puis 343 millions de tonnes de déchets qui vont rester déchets ad vitam aeternam.
Ouais.
Puis ce que je ne sais pas encore, c'est la quantité d'eau qui sera polluée. Là. Ça, je ne le sais pas encore. Mais,
toutes les nappes phréatiques vont souffrir, sauf déjà, là, dans le coin. Ouais.
Puis on peut dire, c'est facile, en résumé, que la mine, elle transgresse l'accord de Paris et la convention COP15. Bon. OK. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ben oui, la question linéaire, on a une pensée linéaire, tandis que les Autochtones ont une pensée circulaire.
Bien sûr.
Nous devrions justement avoir une littératie aux Premières Nations.
Je pense que une des choses peut-être qui pourrait transformer, c'est très simple, ça c'est dans mon domaine parce que c'est l'éducation.
Oui.
Première chose là, qui ferait beaucoup bouger les mentalités, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, apprendre la langue autochtone du territoire où on se trouve, à l'école primaire. Ça, non seulement ça ferait une revitalisation des langues autochtones, mais ça ferait une transformation complète de ce qu'on entend par vivre au Québec. Et c'est très facile à faire, c'est très simple. Là. Ça prend vraiment pas... juste un petit peu de bonne volonté, puis dans 10 ans, c'est fait. Et ça, je pense qu'en apprenant des mots des langues autochtones, déjà juste la puissance de ces mots-là peuvent créer quelque chose de neuf, là, faire voir les choses différemment. Je pense que ça, c'est l'idée du cercle, là, elle vient de là. C'est Georges Siwi, le grand philosophe Wendat, c'est à lui que j'emprunte ça, la civilisation du cercle, là, c'est comme ça qu'il appelle les cultures autochtones, ou même en particulier les Wendat. On ne soupçonne pas à quel point cette pensée-là nous traverse de part en part, notamment dans l'idée de confédération et de fédération, autant au Canada qu'aux États-Unis. Les systèmes politiques ont été bâtis en imitation des grandes fédérations Wendat, des fédérations iroquoises, des fédérations même abénakises. Puis ça, on l'a oublié. Hein, que c'est... Même la Suisse a eu une inspiration qui est venue des récits des premiers découvreurs sur cette question-là de comment faire pour que le système politique soit viable en se fédérant, hein, en fédérant les différentes nations. C'est assez incroyable ce que Georges Siwi exhume là.
Oui, puis Sipi Flamand aussi, dans son livre « Nikanik et Itapian », un petit livre de... quelques pages. Là,
vraiment bien documenté, c'est bien ça.
Ouais. Merci. Celui-là, c'est grâce à Roméo Bouchard que j'en ai entendu parler dans sa page Facebook. Et puis, j'aimerais apprendre l'Atikamekw personnellement, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai su que ça vient de la forêt. Et puis, on va passer très bientôt, là, je suis en retard sur la pause commerciale, mais une petite seconde. Le pain blanc, c'est un symbole de paix que j'ai appris dans la culture iroquoise. Puis, j'ai appris un peu d'Abénaki, mais j'ai dû lâcher, mais je vais revenir.
En tout cas, bravo. Oléoné.
Fait qu'on passe au commerce. On revient. Bon, rebonjour, bienvenue à Nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je suis en présence d'Étienne Beaulieu, un professeur et un auteur. Et puis, il nous reste peut-être quelques thèmes là, en cinq minutes, là, les droits de la nature, puis aussi la grève de mémoire. Fait que on sait qu'en Équateur, dans, la, dans leur constitution, il y a les droits de la nature. Mais dans les villes, j'en ai trouvé aucun. J'aimerais ça qu'à Sherbrooke, il y ait une constitution municipale que nous écririons avec les droits de la nature dedans. Fait que qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, je trouverais ça merveilleux. Je pense que c'est ça, c'est une clé. Tu sais, le grand collègue de Serge Bouchard qui est décédé, Bernard Arcan, là, il avait fait sa thèse là, sur des Premières Nations d'Amérique du Sud, dans laquelle il a fait sa thèse, très résumée en une phrase. Là, il disait, chez ces gens-là, il n'y a pas de distinction entre sujet-objet. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un arbre, une rivière, une montagne ou un être humain, c'est la même position grammaticale. Et ça, ce que ça fait, c'est ça change complètement notre regard sur le monde qui nous entoure, parce que ça veut dire que tout ce qu'on voit est sujet. Donc, ça veut dire que si vous polluez la rivière, ben, la rivière peut vous poursuivre. Si on donne le droit d'être sujet hein, à tous les éléments naturels, puis je sais que là, en ce moment, par exemple, pour la rivière Magpie, sur le territoire des Innu, hein, sur le Nutchimit, Nitassinan, ils sont en train d'essayer d'avoir le statut de personne légale. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le langage occidental, là, de personne légale. Donc, autrement dit, si on lui fait du dommage et intérêt, la rivière peut vous poursuivre. C'est la clé du futur, je pense, et il faudrait doter ça au niveau municipal. Je pense que c'est le niveau qui peut le plus faire bouger les choses et le plus rapidement possible pour toutes sortes de faire débloquer un paquet de questions. Là. Je pense à toutes les rivières qui sont les affluentes du lac Saint-Jean, hein, Pequamican, c'est une des clés. Je pense que le droit de la nature de se poursuivre telle qu'elle est, de prospérer, de se reproduire, d'exister tout court. Je pense que c'est peut-être la question légale va sauver le patrimoine éco-forestier du monde entier, peut-être.
D'accord. Vous parlez de grève de mémoire.
Oui. Oui, parce que ça, c'est justement, tu sais, face à la situation catastrophique dans laquelle on est, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois, dont, tu sais, moi-même, là, je m'exclurais pas de ça. On a tous un réflexe de se tourner vers les nations autochtones, puis certains plus que d'autres, puis même de s'inventer une histoire autochtone, c'est que de toutes pièces, il y en a beaucoup là, qui sont là-dedans. Mm-hmm. Moi, je veux dire tout de suite, quand on ouvre mon livre, là, Les rêves du Hokpi, je le dis tout de suite, je ne suis pas autochtone, même pas de la fesse gauche.
Oui, okay? D'accord.
C'est comme ça. Puis je ferai pas semblant, sauf que dans ma famille, il y a une histoire qui court comme dans tellement de familles québécoises que, bon, au moment de la chute de la Huronie, comme on disait jadis, hein, au moment en 1649, là, au moment où les Iroquois vont prendre le dessus, les Hurons ou les Wendats sont décimés, il y a plein de Wendats qui s'en vont vers Québec, dont une certaine Anenonta, dont, effectivement, j'ai fait l'arbre généalogique, ça remonte, mais il y a à peu près 2 millions de Québécois, je pense, qui sont touchés par ça. Et rendu à ce degré-là, de 8, 9, 10 générations, ça ne veut plus rien dire. Les Innus, quand le premier ministre François Legault a fait la même petite histoire, ils sont partis à rire, ils ont dit « Ah, c'est la Koukoum à Legault ». Ils l'appellent la Koukoum. Koukoum veut dire la grand-mère en Innu. Okay. Donc, la Koukoum à Legault, puis ils se foutent de sa gueule, bien sûr, parce que c'est une façon de se dédouaner, d'avoir bonne conscience, de dire « Ah, moi, je suis autochtone, je suis du côté des bons, je suis du côté de ceux qui polluent pas ». Mon œil.
Okay.
Mon œil. Je ne crois pas ça. Donc, pourquoi on a fait ça? Je me suis posé la question. Pourquoi même le grand poète Alfred Desrochers, fondateur de la littérature estrienne, même lui s'invente ce récit-là? Même lui, mes ancêtres d'ici sont pas comme vous, les Blancs. Ils s'inventent le statut autochtone. On a fouillé dans ses généalogies. C'est totalement faux. C'est totalement faux.
D'accord.
Pourquoi? Ma réponse à la question, on a besoin de greffer une mémoire plus puissante que la nôtre parce qu'on ne sait pas pourquoi on est ici.
D'accord. Merci bien.
Fait plaisir.
Dans le livre, il reste deux minutes. Dans le livre de Caroline Monpetit, Bonjour Kwe,
elle
donne à peu près 6 mots dans chacune des 11 Premières Nations. Là,
je pense que c'est une très bonne initiative qu'elle a fait. Même si, bon, je ne sais pas si vous connaissez le texte de Dali Giroux qui a beaucoup critiqué ce livre-là.
Non.
Je pense que c'est une excellente initiative que celle de Caroline Monpetit. Il faut faire attention. Je m'inclus dans ceux qu'il faut faire attention. Moi, je suis sans arrêt sur le bord de dire des conneries. Et je me surveille moi-même sans arrêt. J'essaie de contre-vérifier tout ce que j'écris et je dis par des gens qui sont compétents. Caroline Monpetit, je pense, ça part d'une très bonne intention.
Okay?
Mais justement, sur la question des langues autochtones, on a tendance à s'approprier certains mots, à les faire nôtres, alors que ce n'est pas les nôtres.
C'est pas,
puis notre interprétation peut être très blanche.
Okay.
Souvent, on fait une traduction qui, des fois, les Autochtones ne se retrouvent pas dans ce qu'on... Ouais, okay. En fait, souvent.
sujet-objet, pas de séparation. pour moi, ça sonne mystique. On lit des mystiques. Là,
Saint-Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, bien sûr, bien sûr. C'est des gens justement qui plaident pour une fusion sujet-objet, absolument.
Puis la fête des âmes de plusieurs jours chez les Wendat.
Oui, sur beaucoup, les Wendat. Oh mon Dieu, ça, j'ai parlé de ça à Lou-Carl Picassé. Oui, on n'a pas le temps d'en parler. Hein. Juste une minute, très rapidement. Lou-Carl Picassé, oui, qu'on a fait au Salon du Livre de l'Estrie à l'automne dernier, là, toute une série de rencontres, notamment à l'université ici, au Cégep, un peu partout. Je lui ai parlé de ça, de ce que Georges Sioui, le grand philosophe, mentionne. C'est sur des écrits de Champlain, des écrits du père Brébeuf. On sait que par ces écrits-là, que les Wendat faisaient une fête qui était à chaque 13, 14, 15 ans pour célébrer leur mort, qui devaient enterrer tous ensemble et qui faisaient une espèce de... En fait, on appelle ça la fête des âmes, mais c'est les Blancs qui traduisent ça comme ça. En fait, Georges Sioui nous apprend, ça s'appelle le Yandatsa. En fait, c'est... Mais je dis Yann, n'importe qui parle Wendat va me taper sur les doigts. C'est pas comme ça, c'est An. Qu'on prononce, c'est pas An à l'inou, c'est An. Ça ferait Yandatsa, plus quelque chose comme ça. Excusez mon Wendat, là. Okay. Et donc, cette fête-là, ça veut dire, ça se traduit par le chaudron, la fête du chaudron. Okay. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? C'est on faisait une espèce de sagamité, et on nourrissait les morts pour leur donner du courage pour leur passage vers l'au-delà, vers l'ouest, hein, le village où il y a plus d'ombre, il y a seulement de la lumière. C'est comme ça, donc, par exemple, ouais. L'œuvre de Jean Sioui, vous pouvez. De Pierre Sioui, pardon, Jean Sioui, c'est un écrivain, mais Pierre Sioui, l'artiste Wendat, vous montre toute cette mythologie-là, Wendat. Donc, la fête des morts, c'est la séparation des deux âmes, parce qu'en Wendat, ça se dit Atiskan, l'âme. Donc, l'os, qui veut dire l'os en même temps. Donc, les os restent dans la terre, l'âme s'envole sous la forme d'un corbeau, d'une corneille, vers l'ouest et vers la vie éternelle. Voilà.
Ça, c'est 45 heures de cours.
Ouais.
Vous dites que l'image la plus proche de ce qu'elle a pensé, c'est de la brume le matin à la surface d'un lac.
Oui, ouais, j'ai dit ça dans ce moment-là au Wabeket parce que ça m'est apparu une évidence. Là.
Puis, une petite question d'information qui peut être encourageante. Là. Le réseau d'action en santé durable dit dans la 13e de ses 18 revendications, intégrer le savoir et la perspective des Premières Nations et des Inuits dans l'élaboration et l'implantation des politiques de santé durable et environnementale.
Oui, oui.
Puis est-ce qu'on pourrait faire une émission ici là-dessus sur l'autochtonie seulement, peut-être à un moment donné?
Par des autochtones.
Oui, c'est ça.
Par des autochtones, c'est capital.
OK.
De leur donner la parole. Tu sais, il y a plein... on est à Sherbrooke, on est sur le territoire des Abénakis. Il y a un paquet d'Abénakis qui demandent juste à parler. Est-ce qu'on leur donne le micro?
Puis comment ça fait que j'ai de la misère à en trouver? Mais vous allez nous dire.
Oui, bien, parce que j'ai fait ma petite enquête parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont brûlé.
Ah! Okay.
Parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont de descendance abénakise. J'ai plein d'amis, en fait, avec qui je travaille des fois, qui me disent « ben moi, je sais que je suis abénakise, mais je peux pas le revendiquer parce que j'ai pas de documents. Ça a brûlé il y a deux générations. Okay. » Mais je le sais, ma grand-mère me disait, mon père me disait, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il y a beaucoup de ça. Mais il y a plein d'abénakis qui sont abénakis de sources sûres et qui, eux, demandent juste à avoir une association avec les Blancs, à ce qu'on les intègre dans nos politiques culturelles. C'est pour ça, moi, que pourquoi le pont des Grandes Fourches s'appelle pas, hein, le pont des Grandes Fourches en abénaki, je la comprends pas, celle-là. Okay. Il y a plein de gestes à faire. Là. La rivière Saint-François, l'histoire, il faut absolument que ça s'appelle plus la rivière Saint-François. Ou les deux noms, au moins, tu sais, en abénaki puis en français. Ça serait un minimum. Okay. C'est tellement de territoire dans l'Ouest canadien, où j'étais 8 ans à Winnipeg, moi. Okay. Ça serait tellement simple à faire. Ça coûterait rien, ça serait un geste tellement simple et qui aurait une portée énorme.
Oui, au conseil municipal.
Absolument.
OK, on conclut l'émission comme ça. Merci beaucoup à Dylan qui nous a mis en onde et qui a choisi la musique. Et nous étions en présence d'Étienne Beaulieu, une présence enthousiasmante, très énergisante. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir, merci.
Auteur des rêves...
Merci l'invitation.
Il me fait plaisir. Et auteur de Splendeur au Bois Becquet, c'est à lire, c'est à Sherbrooke. Merci beaucoup, bonne journée, à la prochaine.